Les convois partant pour Dachau, l'avenir lu par les fachos, les chambres à gaz à Treblinka. On ne savait pas les tortionnaires, la Gégène et les corps flottant dans la Seine. On noie le zouave au pont de l'Alma. On ne savait pas.
Même quand l'histoire se répète, les massacres à coups de machette, la Bosnie et le Rwanda. On ne savait pas les filles niées sous les voiles, les enfants qui coûtent 100 balles sur les trottoirs de Calcutta. On ne savait pas
le chant des soldats de Craonne, la bouche du métro Charonne, terminus, on vous descend là. On ne savait pas
la main qu'on arrache aux voleurs, la langue qu'on coupe aux menteurs, et puis le bon Dieu dans tout ça.
On ne savait pas
15 ans pour atteindre son sort, au bout des couloirs de la mort, piqué, pendu, on a le choix. On ne savait pas
le marchand de mort est passé sur le sable du Ténéré. Dodo, l'enfant d'eau dormira.
On ne savait pas des morceaux de terre qui crèvent, un virus a pris la relève, le sang réchauffé du sang froid. On ne savait pas les peuples entiers qu'on colonise, les gens qu'on adapte à la crise, ça fera des guerres, on dira. On ne savait pas,
c'était il y a longtemps, c'est pas neuf, l'année finie, c'est par un œuf, au siècle dernier, c'est pour ça.
On ne savait pas,
c'était il y a longtemps, c'est pas neuf, l'année finie, c'est par un œuf, au siècle dernier, c'est pour ça.
Qu'on ne savait pas.
Bonsoir, nous venons d'entendre On ne savait pas, une version publique inédite par Rémo Gary et Michel Bernard, musique Clément Joël, texte de Rémo Gary. Cette musique en introduction de notre émission de ce soir, où nous recevons Bernard Gerland pour parler avec lui d'une semaine de théâtre qu'il organise la semaine prochaine du 2 au 7 avril. Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Te revoilà dans nos locaux une fois de plus pour nous faire part d'un programme conséquent et chargé, mais je pense que les auditeurs qui voudraient assister à tout le pourront, parce que la différence de certains spectacles, il y a quand même du décalage dans les jours de la semaine. Auparavant, on va peut-être recommencer au tout début un peu rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas Parlons-en, que tu nous fasses un rapide historique de Parlons-en avant toute chose, quoi.
Oui, alors Parlons-en, bien, c'est une compagnie lyonnaise qui commence déjà à être un petit peu âgée, puisqu'elle a été créée en 2001. On a déjà quelques heures de vol. Elle a été créée à partir de ma guerre d'Algérie, du spectacle témoignage que j'ai écrit en 95. Qui a été donné pour la première fois.
En 96, ici même.
Tout à fait, ici, en 96. Et d'ailleurs, en même temps, à l'espace 44. Donc, nous revenons et à Canut et à l'espace 44. Voilà, ce qui nous caractérise, c'est que... Enfin, d'abord, nous sommes une compagnie de théâtre. C'est-à-dire que nous travaillons avec la scène et avec le public sur les thèmes occultés méritant mémoire. Exemple, la guerre d'Algérie, où nous avons maintenant deux spectacles, un qui dure depuis maintenant 17 ans sur, donc qui s'appelle la guerre d'Algérie, dont on parlera tout à l'heure, un autre sur le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 61. Nous avons en cours de route créé un spectacle sur l'esclavage qui, pour l'instant, est en suspens. Nous avons également créé un spectacle sur les canuts. Beaucoup de Lyonnais ignorent que les événements concernant les canuts sont des événements de caractère international et pas simplement lyonnais, comme on pourrait dire. Nous avons également fait un spectacle sur la prépsychiatrie, où nous couvrions trois siècles entre Louis XIV et Charcot et Freud. Et puis on a maintenant une nouvelle production sur la montée du fascisme, dont on parlera également tout à l'heure. Voilà, on travaille aussi bien en public qu'en scolaire, et plutôt maintenant à l'extérieur de Lyon que à Lyon, parce qu'on a déjà pas mal travaillé à Lyon. Mais on y revient quand même de temps en temps. L'année dernière, on est revenu à Villeurbanne, on est revenu il y a pas longtemps à Pierre-Bénite et Oullins, et on revient maintenant à l'espace 44.
Donc une compagnie centrée autour de ton activité, ton activisme, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas une permanence d'acteurs. Il y a des gens qui travaillent occasionnellement pour un spectacle ou un autre, mais par contre, c'est presque une association de production de spectacles. Quoi,
tout à fait.
On peut dire.
Il y a une de nos adhérentes qui est très connue ici, Annie-Claude Sauton, qui a fait plusieurs lectures ici, notamment sur Renate Léger. Et puis on s'associe différents acteurs suivant acteurs et metteurs en scène suivant suivant les spectacles.
Avec un aspect associatif et une équipe de gens autour de toi qui te t'aident à différents niveaux. Quoi.
Je dirais autour de moi et autour de nous, parce que nous sommes quand même 5 ou 6 à tirer la barque, et autour de ces 5 ou 6 qui tirent, ben il y a une quarantaine d'adhérents, quoi, quand même. Une de nos caractéristiques, c'est que on intervient bien sûr en public, théâtre, association, etc., etc., MJC, tout ce qu'on peut imaginer sur scène, mais aussi beaucoup en scolaire. Au départ avec Ma Guerre d'Algérie, mais maintenant pas mal avec notamment le spectacle sur la montée du fascisme, puisque les textes sont étudiés depuis l'école primaire jusqu'à la terminale. Donc on a fort à faire là.
Et voilà. Donc cette semaine, comment en est venue l'idée, le projet de faire une semaine centrée autour de spectacles proposés par Parlons-en?
C'est tout simplement André Sanfratello, directeur de l'Espace 44, qui, réalisant que à partir de Ma Guerre d'Algérie, on avait fait d'autres choses, s'est dit mais est-ce que ça serait pas intéressant de faire une semaine où vous produiriez l'ensemble de ce que vous tournez. Alors, on va pas produire l'ensemble de ce que nous tournons, mais on produira au moins 3 spectacles de notre propre production, et puis on invite une compagnie dont on parlera
tout de suite après.
Tout de suite après, d'ailleurs, sur les moines de Tibérine. Alors, quand André Sanfratello nous a fait cette proposition, on s'est dit, pourquoi pas? C'est aussi une occasion pour nous de revenir à Lyon, alors que on était plutôt sur l'extérieur, région parisienne, sud-est bas, plus bas, ou bien Bretagne aussi, beaucoup.
Oui. Voilà. Ou même à Lyon, dans des lieux un peu privés, enfin comme un lycée et autres, qui n'ont pas de répercussions au niveau du public susceptible d'assister à un spectacle à l'Espace 44.
Donc à partir de la proposition d'André, on a monté un projet, et André Sanfratello souhaitait que ce soit des spectacles dont on dit qu'ils sont engagés, dont on dit qu'ils ont une portée politique, et il souhaitait aussi que ça se centre assez sur l'Algérie. Donc il y a quand même 3 spectacles qui sont centrés sur l'Algérie. C'était un 17 octobre, Ma Guerre d'Algérie et Les Moines de Tibérine.
Ça, c'était pas un impératif, mais enfin, c'est parce que on aurait pu imaginer une semaine sur la guerre d'Algérie, mais finalement, non, tu as préféré aussi inclure un nouveau spectacle qui prend son essor.
Et puis, malheureusement, ce spectacle devient de plus en plus d'actualité dans la France actuelle et dans l'Europe. Voilà.
Alors on parle d'engagement, c'est peut-être plus un engagement humaniste qu'un engagement politique, encore que je pense pas que Parlons-en recule devant la notion d'engagement politique.
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Mais les spectacles en question n'ont pas une visée didactique politique. C'est des spectacles d'éveil de conscience, de réflexion.
Oui, tout à fait. Oui, ils sont tout à fait ouverts. Oui, non. Nous n'imposons rien. Bien au contraire. Une de nos spécificités aussi, c'est que nos spectacles ouvrent la discussion et sont prévus pour ouvrir la discussion. Non seulement dans les mots, mais dans les faits. Puisque, notamment avec Ma Guerre d'Algérie, mais ça peut être tout à fait possible avec les autres, le spectacle s'ouvre vraiment, la représentation s'ouvre sur une discussion avec les gens, où tout peut venir, là. Et nous n'imposons rien dans
ce qui va se dire.
Dans le débat, quoi. Voilà. Dans ce qui va se dire, ou dans les questions, remarques, réflexions que les gens ont exprimées.
Alors, on va peut-être parler du premier spectacle, enfin premier, puisqu'il faut bien commencer par un, qui est celui de la compagnie invitée, le Minotaure, de et par Jean-Jacques Grénaud.
Oui, c'est ça.
De quoi s'agit-il ?
Alors, le Minotaure, c'est une compagnie qui a aussi cette caractéristique de travailler beaucoup sur l'actualité. Et Jean-Jacques Grénaud, qui est l'auteur de la compagnie, a écrit un certain nombre de textes, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, sur l'Argentine, à l'époque, sur l'Algérie. D'ailleurs, son spectacle a été souvent donné ici, à l'Algéma Blanche. Je me demande même si l'Espace 34 ne l'a pas programmé dans un bus, dans le théâtre romain, à la Croix-Rousse, en bas de la Croix-Rousse. Sur la Palestine, avec A News Day notamment, c'était le titre du spectacle, sur la Tchétchénie, voilà. Sur la Tchétchénie et avec Anna Politkovskaya aussi, puisque c'était même le titre du spectacle. Et maintenant, Jean-Jacques Grénaud s'est attaqué aux moines de Tibérine. Enfin, c'est pas attaqué à eux, c'est attaqué avec les mots. D'autres s'y sont attaqués. Donc, Jean-Jacques Grénaud est un pilier de la compagnie, ainsi que Cathy Grandi, qui en est la directrice artistique, et qui met en espace les moines de Tibérine, qui est une lecture spectacle, par l'auteur, lui-même.
C'est quelque chose qui a déjà été donné, ou c'est
oui.
Une première à Lyon, c'est déjà?
Qui a été donné à l'Espace 44, qui est donné en ce moment sur la région parisienne, qui a été donné deux années de suite à Avignon. Donc c'est déjà quelque chose qui est rodé. Et si la compagnie du Minotaure avait eu les crédits nécessaires, ça aurait été un véritable spectacle avec une petite dizaine de personnages, dont quelques comédiens lyonnais. Et c'est parce que la compagnie du Minotaure n'a pas eu les crédits qu'elle est obligée de se rabattre sur une lecture spectacle, mais elle est prête à aller plus loin sur la mise en œuvre, sur la mise en scène.
Oui, tu as déjà assisté à cette lecture, non?
Oui.
Oui. Quelle impression t'en as?
Alors, il s'agit d'un texte dans la forme poétique, mais dans le fond politique. Voilà. Et ça, Jean-Jacques Grénaud et Cathy Grandi tiennent beaucoup à ce caractère politique. En fait, le texte revient sur la question des moines de Tibérine. On pourrait dire que c'est la version théâtrale des hommes et des dieux. Ça n'est pas les images, mais ce sont les mots. Et qui est en total respect et de l'histoire des moines de Tibérine et de la communauté monastique et de la ferveur. De la ferveur de cette communauté. Alors, ce qui est peut-être différent du film, c'est que le texte, et c'est en ce sens-là où le texte, je dirais, et c'est le caractère politique du texte, c'est qu'il revient sur la question de l'assassinat, mais qu'il élargit à la question des otages, la question générale des otages, question d'ailleurs qui est de plus en plus brûlante au point de vue actualité, et on peut dire que c'est une méthode de guerre de plus en plus, enfin qui se généralise, quoi.
Voilà, on n'a pas d'extrait sonore à proposer à nos auditeurs, donc on les invite à découvrir sur scène. Ça, ce spectacle-là sera donné le mercredi 19, le mercredi 3 à 19h, le jeudi 4, le vendredi 5 et toujours à 19h. Donc,
tout à fait.
Trois soirs, mercredi, jeudi, vendredi de la semaine en 8.
Je peux donner un court extrait de quelques secondes, simplement, qui est plutôt l'aspect politique, l'aspect poétique. Hein. Ils ne sont plus là. Où sont-ils? Ils ne sont plus au monastère. Ils savaient de quoi faire pourtant. Et tous les jours, et demain, et encore, au soleil couchant et au vent dominant, on les voyait, on les entendait. D'autres les ont vus, les souffrants, les enfants, les porteurs de couteaux, et surtout, surtout les ânes les ont vus. Mais aujourd'hui, eux aussi se taisent. On on ne peut pas faire confiance aux ânes.
Merci. On va évoquer maintenant un deuxième spectacle, qui, celui-là, donc, est un peu ton spectacle emblématique, celui de la compagnie, qui est Ma guerre d'Algérie. Donc, il va sur ses 20 ans, il y a encore quelques années, mais bon, qu'est-ce que tu peux en dire pour des auditeurs qui, pour la première fois, là, ouvriraient Radio Canu ce soir et n'auraient pas entendu parler de ce texte?
Est-ce qu'il y en aurait seulement qui n'en auraient pas?
Oh, il y en a toujours moins.
Il y en a toujours moins. Alors, pour celui-là, rapidement, c'est un texte autobiographique que j'ai écrit moi-même après un grand moment de silence, comme beaucoup d'anciens d'Algérie. Je crois que ça doit être 35 ans après être revenu de la guerre d'Algérie. Texte autobiographique sur les 2 ans que j'ai passé là-bas comme soldat de l'armée française. Une des premières fois d'ailleurs que nous l'avons donné à Lyon, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'était à Canu et à l'espace 44. Depuis, nous l'avons tourné à peu près 350 fois, notamment au Festival d'Avignon, notamment pour des gens qui connaîtraient un petit peu le milieu théâtral, l'amphithéâtre de Pont-de-Claix, avec Michel Beltante, qui d'ailleurs joue en ce moment sur Lyon, Michel Beltante, au Festival du Zest, chez Bernard Lubat. On a eu l'occasion de le donner aussi à Lyon, aux ateliers, à l'intervalle, au Clochard Céleste aussi. Beaucoup en scolaire, beaucoup dans des projets associatifs.
Oui, puis il faut pas oublier devant des anciens d'Algérie quand même, puisqu'une partie de ton projet, je crois, c'était d'aller à cette rencontre-là.
Mais si j'ai parlé d'abord des scolaires, c'est parce que je crois que sur les milliers de personnes qui ont participé, c'est majoritairement des jeunes. À cause des représentations scolaires et des organisations de jeunes diverses et variées. Mais bien sûr, aussi les anciens d'Algérie, prochainement la FNACA nous a programmé en Isère et en Saône-et-Loire, par exemple. Voilà. Donc ce spectacle témoignage, je tiens à l'appeler spectacle témoignage, car ce n'est pas un spectacle au sens habituel du terme. Ça n'est pas un roman, ça n'est pas un conte. Il s'agit du jeu, et je parle au jeu, et souvent je m'adresse au spectateur au tu. Voilà. Donc c'est un peu ce qui caractérise ce spectacle, et il est automatiquement suivi d'un échange avec le public, parce que ça soulève tellement de questions, de réflexions, que les spectateurs, qu'on le veuille ou non, ont envie après de poursuivre.
Alors là, on va offrir à nos auditeurs, ceux qui ne l'ont peut-être jamais entendu, une dizaine de minutes d'extrait de ce spectacle qui leur donnera une idée assez précise de ce qu'il en est et qui en même temps leur donnera forcément envie de découvrir le reste. C'est l'enregistrement Radio Canu du 24 juin 1996. Donc bonne écoute, on se retrouve dans une dizaine de minutes.
Une guerre jamais déclarée, jamais avouée, jamais nommée, sinon maintien de l'ordre, pacification et bien d'autres noms encore qu'il a banalisés. Pourtant, pendant 8 ans, la France fit tourner là-bas des soldats de toutes les armes, rappela les réservistes, doubla et même tripla la durée du service militaire. Une vraie guerre. Nos historiens retiennent maintenant le chiffre de 300 000 morts dans le peuple algérien, combattants et civils, soit rapporté à la population l'équivalent des pertes françaises au cours de la Première Guerre mondiale. Les Algériens, eux, déclarent encore plus d'un million de morts, plus de 10% de la population d'alors, qui dit juste, peu importe, une saignée. Cette guerre fit aussi dans nos deux peuples de nombreux blessés du corps, de la tête et de la conscience. Une guerre complexe. L'une, si j'ose dire, régulière, armée contre armée, soldat contre soldat. L'autre, ou plutôt les autres, interne, civil, au sein même de chaque peuple, notamment du peuple algérien. Notre peuple et même notre armée ne furent pas épargnés par les dissensions, les putschs, les exactions, les règlements de compte de toutes sortes. La guerre. La guerre avec ses pillages, sa terre brûlée. C'était systématique. À la fin de chaque opération de ratissage, on foutait le feu à la forêt et à toute végétation. Une sorte de bras d'honneur, une manière de saluer, un souvenir de notre passage. La guerre, avec ses rafles, aucun civil n'était à l'abri, toute personne était suspecte. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Seule la peur du ridicule nous retenait de suspecter les bourricots. Et encore. La guerre, avec ses tortures, chaque homme capturé y avait droit. C'était dans l'ordre des choses, presque banal. Une institution, en somme. La guerre, avec ses exécutions sommaires, ses viols, ses débauches de toutes sortes. Des traces de tout cela, aujourd'hui encore, bien sûr. Sinon, je ne t'en parlerai pas. Pendant longtemps, conscience endormie. Et puis, peu à peu, lentement, comme une maturation, une odeur montante de lâcher prise à toute velléité de résistance à l'environnement militaire. Une odeur d'automatisme dans la pensée qui ne pense plus. Dans l'exécution des ordres et leur transmission. Au fond, une odeur de lâcheté, de coucher, de veste retournée. Ainsi, progressivement, en 2 ans, je vais cesser de combattre. J'avais donc baissé les bras. Marcher au pas de l'idée dominante. Pendant que d'autres que moi, ici et là-bas dans les deux camps, contestaient, résistaient, combattaient, manifestaient, montraient la voie à suivre. Et pour cela, était inquiété, arrêté, emprisonné, torturé, exécuté. J'ai eu beaucoup de mal à m'arracher à ce pays. Tant je m'en étais épris, tant je l'avais malmené, j'y avais été malmené. La guerre dura encore quelques mois. Elle se termina par les accords d'Évian signés en mars 1962, entrés en application en juillet de la même année, mettant fin à 8 ans de guerre en Algérie. Les résistants de nos deux pays avaient eu raison. Ils gagnaient. Grâce à eux, l'évidence prenait forme. L'Algérie devenait indépendante. Merci. Une autre histoire commençait pour elle.
Voilà, nous vous avons plongé dans l'univers, dans l'atmosphère, le climat de ce spectacle, donc Ma guerre d'Algérie. Les illustrations musicales que vous avez entendues sont des chants interprétés, chants traditionnels par Taos Amrouche. Ma guerre d'Algérie, quoi? Ah ben si, il faut quand même qu'on dise les jours et les heures où le spectacle sera donné. Donc le mardi 2 avril à 20h30. Et puis après, c'est le samedi, il y a deux présentations, hein, c'est ça, le samedi 6 avril à 20h30. Quoi. Et ben tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous pouvez entre 19h, il y a un spectacle à 19h et à 21h. Donc ça peut être une possibilité aussi d'assister à deux spectacles en une seule soirée. Quoi. Quelque chose à ajouter sur Ma guerre d'Algérie, Bernard, ou
non.
On passe à un spectacle que vous avez réalisé beaucoup plus récemment pour la commémoration du 17 octobre 61.
Tout à fait. On l'a créé au moment du 50e anniversaire de ce massacre, c'est-à-dire il a eu lieu le 17 octobre 61, donc on l'a créé en 2011. Il nous a été proposé d'ailleurs par une association qui s'appelle Coup de Soleil, une association composée surtout de pieds noirs, d'anciens pieds noirs, qui travaille beaucoup sur la culture des deux rives de la Méditerranée, dans un but de connaissance, de compréhension mutuelle et puis de réconciliation entre les deux peuples. Et en fait, il s'agit d'un texte théâtral écrit par une dame qui s'appelle Marie-Christine Prati-Belmokhtar, qui habite dans la région parisienne. Et quand ce texte nous a été proposé, on a tout de suite pensé qu'on pouvait en faire quelque chose, évidemment en l'adaptant, et en en faisant une lecture, spectacle, à quatre voix, les quatre comédiens, Annie-Claude Sauton, Vincent Villemagne, Myriam Lechanoine et moi-même, incarnant une, à peu près une dizaine de personnages, qui sont les personnages du texte théâtral initial. Et donc ce spectacle revient et a pour but de transmettre la mémoire de ce massacre malheureux qui, d'après les historiens, c'est pas moi qui le dis, est le plus grand massacre qui ait eu lieu dans Paris depuis la Commune de 1871, sous les ordres du préfet Papon.
Oui, on peut peut-être dire pour nos auditeurs les plus jeunes ou qui ne connaîtraient pas bien toute l'histoire de la guerre d'Algérie que 17 octobre 61, on est donc 6 mois avant la fin de la signature des accords et le FLN face à la répression dont étaient victimes les Maghrébins à Paris et puis aussi pour des raisons politiques peut-être a voulu montrer sa force et a incité toute la population maghrébine à descendre dans la rue ce jour-là pour protester contre un couvre-feu qui était imposé, quoi. Donc des familles entières, les vieux, les jeunes, les enfants, tout le monde s'est retrouvé et les flics sous la direction de Papon avaient organisé une répression gigantesque, à la fois par la violence et par le nombre des gens qu'on a pris à la sortie des métros, tabassés. Il y a eu donc beaucoup de morts. À l'époque, on a pas su le nombre, aujourd'hui on sait pas très bien, mais encore. Et on a parlé donc de 10 000 arrestations, ce qui est colossal, quoi. Donc c'était à Paris, c'était en France, c'était pas en Algérie, sur fond bien sûr de guerre d'Algérie, à une époque où la population française aussi n'en voulait plus de cette guerre et voulait que ça se termine par ce par quoi ça s'est terminé, c'est-à-dire accepter l'autonomie et l'indépendance du peuple algérien, quoi. Mais on n'y était pas encore et c'est donc cet événement qui est raconté à travers l'histoire d'une famille qui
tout à fait
qui l'a vécu.
Mmh. Oui.
Voilà, ben là on va pouvoir aussi en donner une idée à nos auditeurs avec un enregistrement qu'on a réalisé ici à Radio Canu le 17 octobre 2011 et c'est donc un extrait pendant, là aussi, une petite dizaine de minutes que nous vous proposons d'entendre de ce spectacle.
Déjà 2 heures qu'ils sont partis. C'est long. Et ces sirènes de police dehors, ce n'est pas bon signe. Il faut que je me calme, que je me raisonne. Oui, raisonnons, c'est ça. Alors, ils sont partis vers 6h30, le temps de prendre le métro, d'aller au rendez-vous. 1 heure. La manifestation devrait démarrer vers 8h. Mais c'est évident, ils ne peuvent pas encore être là.
Mohamed revient, essoufflé, affolé.
Enfin, te voilà, Mohamed. Mais j'étais inquiète. J'avais beau me dire que vous n'étiez pas parti depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est ton père? Parle!
Je n'étais pas avec lui. J'ai pas pu le rejoindre. Je ne suis même pas allé à la manifestation.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Reprends ton calme, raconte-moi.
Papa, Brahim et Leïla sont partis devant moi. Il devait être 6h30. Moi, j'ai rencontré des copains. Je me suis arrêté pour discuter avec eux. Papa était impatient, le métro est arrivé. Ils sont montés. On s'est donné rendez-vous à Saint-Michel. Et après, je les ai pas revus.
Mais ensuite, tu as pris le métro, toi aussi. Tu as essayé de les rejoindre.
Oui, j'ai dû laisser partir 2 ou 3 métros seulement. Je sais pas combien de minutes sont passées. Peut-être 20. Si seulement je les avais pas quittés. Je suis finalement arrivé à Saint-Michel. Je me suis dit que j'allais sûrement les retrouver sur la place. Mais en sortant du métro, j'ai entendu des cris, des bruits étranges. Et là, l'horreur. Des policiers étaient postés à chaque sortie. Ils arrêtaient tous les gens typés, les frappaient à coups de barre de fer, maman, et les forçaient à monter dans les cars de police. Il y avait un homme allongé par terre. Il ne bougeait plus. Alors, j'ai pensé à papa. J'ai voulu sortir pour le retrouver, et puis, je me suis dit que s'il m'arrêtait, je ne servirais à rien. Et du coup, j'ai fait demi-tour. J'ai traîné dans les couloirs du métro. Ma tête était vide, je savais plus où j'allais. J'ai vu un homme en sang assis sur un banc. Il avait l'air d'attendre je ne sais quoi. Son regard était vide. Au début, il ne parlait pas, mais petit à petit, j'ai réussi à le rassurer et il m'a raconté son histoire, sans s'arrêter, d'une traite, comme si les paroles qu'il prononçait lui permettaient de soulager sa douleur. Le matin même, il avait été arrêté au moment où il rentrait du travail. Il travaille de nuit dans le métro. Ils l'ont emmené au commissariat. Il a d'abord attendu longtemps dans le couloir. Il entendait des cris derrière les portes. L'angoisse commençait à monter dans tout son corps. Il pensait à se sauver, mais c'était impossible. Il y avait des policiers partout. Ils l'ont fait rentrer. Lui ont enlevé sa montre en lui disant qu'elle était magnifique et ils l'ont cassée sous ses yeux. Et puis, un policier l'a pris par les pieds, un autre par les bras. Ils l'ont projeté en l'air et l'ont laissé retomber par terre. Ils l'ont fait plusieurs fois. Son corps s'abattait sur le sol, de plus en plus meurtri. Il était presque inanimé lorsqu'ils ont décidé de passer à un autre jeu. Ils se sont acharnés sur 2 autres victimes. Leur ont fait boire de l'eau de Javel, maman, tu te rends compte? Jusqu'à ce qu'ils vomissent. Ils riaient et leur donnaient des coups de pied en leur criant de se taire. L'homme ne sait plus comment il s'est retrouvé dehors et s'est traîné jusque dans le métro. Il n'avait plus la force d'avancer. Il était obsédé par ces images horribles qu'il ne réussissait pas à chasser de sa tête. Je l'ai aidé à rentrer chez lui et puis je suis revenu.
Mais quelle horreur! C'est un cauchemar?
Ce n'est pas un cauchemar. C'est bel et bien la vérité.
Et ton père? Tu ne sais pas ce qui a pu lui arriver?
Je sais pas.
Tu penses qu'ils se sont fait arrêter, eux aussi?
Je sais pas, j'ignore à quelle heure les barrages de police ont été placés à la sortie des métros. Peut-être ont-ils réussi à rejoindre le rendez-vous de la manifestation?
Et où emmenaient-ils tous ces gens qu'ils arrêtaient?
Maman, je n'en sais pas plus que toi. Écoute, je vais y retourner. Je vais essayer de les retrouver. Ne t'inquiète pas. Nous ne pouvons pas rester ici sans rien faire, à attendre.
Je suis d'accord avec toi. Attendre sans rien faire, c'est insupportable. Mais tu ne vas pas faire le tour de Paris à pied. À cette heure, il n'y a plus de métro. Et puis tu entends les sirènes des voitures de police? Je suis certaine qu'ils continuent à arrêter tout le monde. Tu devrais dormir quelques heures et y aller demain matin. Arrêter, tu l'as dit toi-même, tu ne leur serviras à rien.
Tu as raison. Maintenant, c'est encore trop risqué. Demain, j'aurai peut-être plus de chances de les retrouver. Ne t'inquiète pas, maman. Demain, Je les ramènerai à la maison.
On frappe à la porte. Souad entre. Mohamed la croise au passage.
Mohamed n'est pas allé à la manifestation ? Pourtant, je croyais...
Il n'a pas pu y aller. Il y avait des barrages de police partout. Ils se sont séparés au métro. Il n'a pas pu les rejoindre.
Il a eu de leurs nouvelles ?
Il n'a des nouvelles de personne. La police était partout. Ils se sont peut-être fait arrêter.
Mais enfin, mais pour quelle raison ils se seraient fait arrêter ? Tu les connais, ils ne feraient pas de mal à une mouche.
Je crains justement qu'il n'y ait aucune raison. Le seul fait de vouloir participer à cette manifestation semble être une raison suffisante pour les forces de l'ordre. Mohamed m'a raconté des choses. Je ne veux pas t'inquiéter, mais il faut que tu saches.
Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
La plage musicale que vous venez d'entendre, qui suivait l'extrait du spectacle, c'est « Dans la gueule du loup », un poème de Kateb Yassim, mis en musique et interprété par les Ted Red. Donc après cet extrait de « C'était un 17 octobre ». Tu voulais ajouter quelque chose,
Bernard ? Oui, j'ajouterais que l'auteur Marie-Christine Prati-Belmokhtar sera là, à l'espace 44, les 6 et 7, peut-être les deux représentations, le 6 avril à 19h et le dimanche 7 avril à 17h30, au moins à l'une des deux, sinon aux deux, et que ça sera la première fois qu'elle assistera à ce qui est devenu son texte théâtral en lecture à quatre voix, dont il nous a semblé qu'il n'y avait pas besoin d'en faire plus pour évoquer ce massacre-là. Je dirais aussi que nous l'avons donné la première fois à Lyon cette année, en 2012, cette saison, je dirais, le 17 octobre même, devant entre autres un sénateur algérien et devant l'équipe de foot qui a, j'ai perdu, Rachid Mekloufi, ça y est, Rachid Mekloufi, les Saint-Étienne, l'équipe de France, enfin, etc., qui était là.
C'était à Vaux-en-Velin, ça, non ?
Oui, c'était à Vaux-en-Velin. Et que nous l'avions donné en 2011 à Paris aussi, devant pas mal de personnalités algériennes, à Colombes, non, à Bobigny, non. à Colombes, voilà. Et que, oui, ça fait une grande impression, bien sûr, parce que, enfin, il voyait que la France reconnaissait ce drame et en parlait publiquement. Donc c'était, oui, ça a été, chaque fois qu'on l'a donné, ça a été chaque fois des grands moments. Voilà.
Voilà, l'heure avance dans notre émission. Il nous reste à parler d'un quatrième spectacle qui... Alors là, on va sortir de la période de la guerre d'Algérie pour rejoindre une période plus antécédente, on va dire. Il s'agit d'un spectacle qui s'appelle « Des matins bruns aux heures noires » et je te laisse nous en dire plus.
Oui, une période plus antécédente pour un des deux textes, puisque ce spectacle est constitué de deux textes que nous avons réunis, « Inconnu à cette adresse », qui est effectivement une fiction historique de Catherine Cressman-Taylor, qui se situe au début des années 30, mais qui est prémonitoire par rapport à la montée du fascisme, puisque pratiquement, dans cet échange épistolaire entre un Américain et un Allemand, on a pratiquement un Juif. Et en Allemand, on a pratiquement ce qui va se passer à la fin des années 30. Voilà, donc ce texte inconnu à cette adresse. Et puis, Matin Brun, qui est une fable, mais qui n'est pas située historiquement, mais qui se veut plus universelle, et qui cause de la montée du fascisme à partir de faits tout à fait apparemment anodins. Tout commence bien, d'ailleurs ça commence par une musique presque sur la plage, une partie de pétanque, comme si on était en Provence et que tout allait bien et que voilà, et puis ça se finit très mal, les deux textes se finissent très mal. On a donc réuni ces deux textes pour parler d'une même chose, la montée du fascisme, sous des formes différentes, reliées par quelques respirations musicales et puis à la fin par
Et la genèse du projet, c'est quoi là? Ça t'est venu comment?
Eh ben la genèse du projet, en fait, il s'agit, alors là c'est important, qu'il faut pas que j'oublie de le dire, il s'agit d'une coproduction entre Parlons-en et puis une association ardéchoise qui s'appelle Grec Production. La genèse du projet, c'est tout simplement que avec un comédien, Éric Guérin, moi j'avais fait des lectures en Ardèche, mais ça lui paraissait intéressant qu'on continue notre travail, et à ce moment-là, des gens de son association nous ont proposé Inconnu à cette adresse, et nous avons proposé Matin Brun. Et du coup, on a marié et adapté les deux textes. Je dis adapté parce que Matin Brun est écrit sous forme de récit et non sous forme de dialogue, alors que nous on le joue en dialogue. Et les deux personnages de Matin Brun, Éric Guérin et moi-même, deviennent ensuite dans le spectacle les deux personnages d'Inconnu à cette adresse.
Ça, c'est votre création la plus récente.
La plus récente, oui. On leur a donné à l'Espace 44, on leur a donné une quinzaine de fois. En public et en scolaire, puisque ces deux textes sont étudiés depuis l'école primaire jusqu'à la terminale. Pour l'instant, on l'a donné en scolaire, on ne l'a donné qu'en collège. Et on l'a donné pratiquement dans 1, 2, 3, 4, 5 départements de la région Rhône-Alpes. Il reste plus que l'un et puis... que là et un autre département.
Oui, c'est un spectacle qui n'a pas encore beaucoup vécu, quoi, qui va tourner.
Oui.
Alors, on va en offrir un extrait à nos auditeurs, grâce à Bernard et à Éric Guérin, qui ont bien voulu, on l'a enregistré, on peut le dire, il y a quelques jours seulement, entre autres pour cette émission, mais pour d'autres projets aussi. Vous aurez l'occasion plus tard d'entendre ce texte dans une émission vendémiaire. Mais vous pourrez surtout aller le voir mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 à 21h, donc à l'Espace 44. Alors, on rappelle rapidement les conditions. Entrée 13 euros, 11,50 réduit, étudiant, chômeur. Passe de spectacle 20 euros, passe 3 spectacles 30 euros, passe 4 spectacles, 35 euros. L'Espace 44, c'est 44 rue Burdeau dans le premier, sur les pentes. Le téléphone pour réserver 04 78 39, jusque-là rien d'original. 79 71, donc 79 71 pour finir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit
Un conseil pour l'ensemble de la carte blanche, réservé au plus tôt, l'espace 44 ne compte pas ce qui s'en passe.
44 places.
Non, 44 places, c'est le numéro de l'allée.
Il doit y avoir plus de 44 places quand même.
Il peut aller jusqu'à 50, mais 50, c'est déjà serré.
Bien,
mais c'est très bien, parce qu'on est proche du public.
Donc nous ne reviendrons pas à l'antenne. Cette émission va se terminer avec un large extrait, presque l'intégrale de Matin Brun. L'autre partie, inconnue à cette adresse, je vous laisse le soin de la découvrir en allant assister au spectacle la semaine prochaine. Merci et bonsoir.
Merci, bonsoir.
Les jambes allongées au soleil. On ne parlait pas vraiment avec Charlie.
On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté.
Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Mais lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, alors ça m'a surpris. Mais sans plus. C'est toujours triste, un kleps qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre il va mourir.
Mais tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un brun.
Bah, ton labrador, c'est pas trop sa couleur. Mais il avait quoi comme maladie?
Ah, mais c'est pas la question. C'était pas un chien brun, c'est tout.
Mince, alors. Comme pour les chats, maintenant?
Eh ouais, pareil.
Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien, hein, de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable. Et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns que des bruns. D'ailleurs, tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Alors, ma foi, un chat, c'est un chat. Et comme il fallait bien résoudre le problème de la surpopulation d'une façon ou d'une autre, eh ben, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns.
Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux.
Sur le moment, pour mon chat, mon cœur s'était serré et puis on oublie vite. Mais les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros. Ou bien, que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit.
En tout cas, je venais d'en parler aussi naturellement que tu l'avais fait pour ton chat, et j'avais sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas grand-chose, et c'est sans doute vrai pour les chiens que les brins sont plus résistants.
On n'avait plus grand-chose à se dire ce jour-là. On s'était quitté, mais avec une drôle d'impression, comme si on ne s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Après, ça a été autour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice. Et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que, si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuaient malgré tout de publier, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume. Mais sûrement pas toujours assorti du mot brun. Enfin, les éditeurs devaient bien le savoir tout de même.
Eh ben, faut pas pousser, tu comprends. La nation n'a rien à y gagner, à accepter qu'on détourne la loi et puis à jouer au chat et à la souris brune. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots.
Au début, demander un pastis brun, ben ça nous avait fait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer. Et ce n'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter à tout bout de champ, tiens, oh putain, con, hein, comme ils font dans le sud-ouest.
Au moins, on était bien vus et on était tranquilles.
Eh oui. Et puis hier, incroyable. Moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie, Le dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bière à la main, c'était tout. On devait taper le carton 2-3 heures tout en grignotant. Et la surprise totale. La porte de son appart avait volé en éclats. Et 2 miliciens, plantés sur le palier, faisaient circuler les curieux. Alors, j'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les chiens parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien était un vrai brun, on l'a bien vu, nous. Ouais, mais à ce qu'ils disent, c'est que avant, il en avait un noir, pas un brun, un noir. Comment avant ? Oui, avant, parce que le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un avant qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander aux voisins. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant, j'avais eu un chat noir et blanc, avant. Ça, alors, je n'y aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils sont dit. Avoir eu un chien ou un chat non conforme, à quelque époque que ce soit, est un délit. Le speaker a même ajouté « injure à l'État national ». Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont emmené Charlie. Là, ils exagèrent, c'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chabran, bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des proprios de chiens et de chats. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi mon chat comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non, résister davantage. Mais comment ? Comment ça va si vite ? Il y a le boulot, il y a les soucis de tous les jours, et puis les autres aussi qui baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? On frappe à la porte ? Si tôt, le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort. J'arrive.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. Je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour dire quelque chose. Thank you.
Thank you.